Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à la 61e session de la Commission de la Condition de la Femme, organisée au siège des Nations Unies à New York du 13 au 24 mars, sur le thème de l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. Durant 15 jours, la Commission de la Condition de la Femme a donc planché sur l'autonomisation économique des femmes, un sujet particulièrement d'actualité dans nombre de pays. Comme le confirme l'ivoirienne Georgette Zamblé, présidente de l'ONG Lead Africaine, qui a pour objectif de promouvoir le leadership des femmes et l'égalité des genres. Elle a participé aux travaux de la Commission au nom du groupe consultatif de la Société civile de la Côte d'Ivoire, affilié à ONU Femmes, comme elle l'a expliqué à Laetitia Kouassi.
En Côte d'Ivoire, de façon générale, les femmes, on va dire, sont exclues des pouvoirs de décision, sont quasiment exclues parce qu'elles sont à peine 10%. Mais en plus de cela, le pouvoir économique fait défaut, bien que des études montrent que les femmes entreprennent deux fois plus que les hommes. Mais on se rend compte qu'elles restent toujours hors. Au moment de bénéficier, disons, des revenus, au moment de bénéficier des ressources, elles ont des difficultés pour accéder parce que justement, il n'y a pas cette capacité d'accès aux ressources, il n'y a pas cette capacité de décider pour soi-même, de contrôler ses revenus, de contrôler les bénéfices qu'elle a de ses revenus. Et il y a un certain nombre de facteurs qu'on appelle les intrants, généralement, dont elle ne dispose pas. Et cela réduit vraiment l'autonomisation économique des femmes. Il faut dire qu'il n'y a pas de vraie politique en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Il y a des initiatives privées, des femmes qui essaient de se mettre en réseau pour apporter un appui aux autres femmes de façon à ce qu'elles puissent entreprendre avec dignité, avec ambition, parce que jusque-là, les politiques publiques ont tendance à les maintenir dans la pauvreté avec des petits projets, des activités génératrices de revenus, dit-on, les AGR, comme si les AGR étaient uniquement des activités féminines. Il y a des tentatives de leur distribuer un peu d'argent, mais c'est toujours pour faire vraiment de l'entrepreneuriat, de la nécessité, qui finalement ne peuvent pas vraiment permettre aux femmes d'être autonomes économiquement.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ces initiatives privées?
Oui, il y a même un fonds national en faveur des femmes qui est beaucoup cité en exemple comme fonds pour pouvoir aider les femmes à s'en sortir. Même au niveau de ce fonds-là, nous notons, nous, en tant qu'organisation de la société civile, que ce n'est pas des fonds qui permettent vraiment aux femmes d'être, par exemple, entrepreneurs d'envergure. Ce sont des petits fonds pour les aider à mener des petites activités. D'ailleurs, le fonds est plafonné à un niveau où, bon, on ne peut pas faire grand-chose avec ces fonds, à moins qu'on se dise que c'est vraiment du très long terme. Mais en même temps, il n'y a pas derrière l'accompagnement des femmes en matière d'autonomisation économique. Il n'y a pas un dispositif national d'accompagnement. C'est ce que nous nous évertuons à faire au niveau privé, mais bon, c'est toujours très limité lorsqu'on est dans le domaine du privé.
Donc les femmes s'organisent entre elles?
Les femmes s'organisent entre elles, elles essaient de mettre en place des réseaux. Bon, généralement dans nos pays en voie de développement, les réseaux, si on nous prend garde, ont tendance à être happés par les pouvoirs publics, par le politique, qui finalement limite leur efficacité. Alors, certains réseaux naissants essaient d'être différents pour faire de telle sorte que les femmes soient vraiment accompagnées. Mais je veux dire, tant que ça reste au niveau du privé, cela risque d'être un peu limité et ne peut pas favoriser entièrement l'autonomisation économique des femmes.
Au nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, s'agissant de l'autonomisation économique des femmes, connaît aussi une problématique comparable. Comme le confirme pour l'accès des femmes à la terre, au micro de Laetitia Kouassi, la trésorière générale adjointe de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, Cécile Thiombiagno-Yougbaré.
L'Association des femmes juristes au Burkina, nous avons eu la chance de mener une étude en 2012 sur la situation des droits des femmes et des filles au Burkina Faso. Et cette étude qui a fait le tour de l'analyse situationnelle des droits socio-économiques, culturels et tout des femmes montre qu'il y a une faiblesse, je vais dire, en matière d'accès des droits des femmes. Et je vous prends un exemple sur le droit foncier. Vous savez, le thème de CSW porte sur l'autonomisation économique de la femme. Mais cette étude nous montre nous a montré en 2012, et nous avons toujours ces mêmes évidences, que la femme burkinabé n'est pas autonome. La femme burkinabé n'a pas accès à la terre. Et il y a les données du ministère de la promotion de la femme qui montrent que seulement 4% des femmes, et vous savez que de façon globale, les femmes sont majoritaires. Au Burkina, nous avons 52% des femmes. Et dans la population générale, mais seulement 4% de ces femmes ont accès aux terres cultivables. En Côte d'Ivoire voisin, on a dit 5%, mais quand vous allez vers le Rwanda, il y a 26% de ces femmes. Et par exemple, pour le Mali, 15%. Ça montre qu'au Burkina, on est toujours en bas de l'échelle en termes d'accès des femmes à la terre. Même s'il y a une volonté politique, parce qu'au niveau des politiques, on a les lois, on a les textes au niveau national, on a ratifié des conventions au niveau international, au niveau régional, qui prônent l'accès de la femme, l'équité, l'accès égal homme-femme à la terre. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. 4%, c'est peu. Donc, voici un exemple que je peux prendre pour vous dire qu'il y a un faible accès de la femme à ces droits. En matière de santé, je pourrais dire pareil. Au niveau international, nous avons aussi ratifié plusieurs textes juridiques qui revendiquent l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Mais quand vous prenez l'accès à la contraception dans mon pays, le taux de prévalence contraceptive est très, très, très bas. Ce qui fait que, fortement, il y a un grand fléau qui est les grossesses non désirées, les grossesses précoces, qui sont vraiment à des niveaux très hauts. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de structures, des associations qui accompagnent l'État dans la lutte contre ces fléaux-là. Donc, voici quelques exemples qui montrent que, vraiment, il y a toujours à faire en matière d'accès à la femme aux droits.
Une 61e session de la Commission de la condition de la femme, qui a mobilisé quelque 3000 femmes venant des 5 continents, à l'instar de cette ancienne députée française Ghislaine Toutain, conseillère du président de la Fondation Jean Jaurès, des propos recueillis par Florence Westgaard.
La Fondation Jean Jaurès n'est pas une association de femmes, ni une association féministe, mais dans son combat pour la démocratie depuis sa création en 1992, elle considère que l'égalité entre les hommes et les femmes est un fondement de la démocratie dans une société. Donc depuis plusieurs années, depuis même pratiquement la création de la Fondation, nous travaillons sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la question des droits des femmes dans tous les domaines de la vie sociale, qu'il s'agisse du monde du travail, qu'il s'agisse des violences, de la prostitution ou des droits sexuels et reproductifs.
Et qu'attendez-vous donc de cette réunion ?
Alors c'est la troisième année que nous participons à la CSW. Et nous y attachons une grande importance parce que déjà le fait de cette réunion des femmes du monde entier, c'est un événement mondial très important, qui n'est pas d'ailleurs suffisamment relayé par les médias dans les États membres. Hein. Ça c'est quelque chose que nous le constatons. Donc c'est très important de voir un petit peu chaque année l'évolution de la place des femmes dans le monde et malheureusement parfois la régression des droits des femmes, comme on le constate actuellement dans un certain nombre de pays. Cette année, nous organisons un side event mercredi prochain avec le planning familial français et une grande association de femmes françaises qui s'appelle La Clé, la coordination française pour le lobby européen des femmes, sur la question précisément des droits sexuels et reproductifs. Nous l'avons appelé « Avortement et contraception, des droits universels ». C'est un sujet qui fait débat, c'est un sujet qui est difficile à porter dans cette enceinte, mais nous l'organisons avec la France, sous le parrainage de la France, en présence de la ministre française, Madame Laurence Rossignol.
Et vous, personnellement, vous êtes femme, bien sûr, et vous travaillez donc pour cette fondation. Et pour vous, personnellement, quelle est l'importance justement du rôle des femmes dans la société et dans le monde du travail ?
Il est essentiel et malheureusement, la place des femmes dans le monde du travail n'est pas suffisamment reconnue à l'heure actuelle, même dans les sociétés démocratiques comme les sociétés européennes, par exemple. Donc moi, j'ai été députée et à l'Assemblée nationale, il y a quelques années, j'ai porté les lois, de grandes lois françaises sur l'égalité professionnelle et surtout un thème qui revient, qui est très actuel dans le débat actuel, sur l'égalité salariale. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, nous avons mené avec nos amis européennes de grandes campagnes pour l'égalité salariale. Parce qu'il y a toujours une différence de 20 à 27% selon les États entre les salaires des femmes et les salaires des hommes pour le même travail. Voilà, donc ça c'est vraiment un combat que nous devons mener. Et moi en tant que femme, si vous voulez, j'ai subi aussi bien dans ma condition de députée, parce que là ce sont des salaires publics, donc voilà, mais dans d'autres emplois que j'ai pu occuper, cette différence à niveau égal, de formation, de progression, les salaires des femmes ne sont pas les mêmes.
Enfin, dernier témoignage de femme participant à la 61e session de la Commission de la condition de la femme, celui du docteur congolais Mikret Ngalula Tchanda, gynécologue et obstétricienne à l'université de Lubumbashi. Au micro de Florence Westgaard, elle raconte comment elle a créé en 2013 une maternité de proximité pour venir en aide aux populations démunies. Elle a particulièrement suivi la conférence consacrée à la contraception et à l'avortement, deux sujets occultés en RDC.
La conférence sur les avortements et la contraception, chez nous, c'est encore un tabou, contraception. Surtout, je parle bien de mon milieu, là, Masangoshi. Parler de la contraception, c'est un tabou. Parler de l'avortement, c'est un tabou. Pourtant, il y a des cas d'avortement mal réalisés et qui créent des dégâts énormes. Alors, c'est que tout ça nous a beaucoup... nous a beaucoup enrichi. Nous avons eu des conférences sur les diabètes, hein, les diabètes sur grossesse. Il y a eu un docteur indien qui nous a parlé de ça. C'était éblouissant. C'est des techniques maintenant vraiment à la portée de tout le monde et qui peuvent nous aider aussi à prendre en charge les femmes que nous traitons. Ouais.
Ouais. Quelle est l'image des hommes vis-à-vis de la clinique et de changer les... C'est un travail aussi des hommes et des femmes, n'est-ce pas?
Oui, c'est un travail des hommes et des femmes. Vous savez, nous sommes en train de parler de l'autonomisation de la femme. Mm-hmm. Je suis médecin, je suis avec mon mari en harmonie. C'est-à-dire que quand je fais mon travail et que mon mari est derrière moi pour me soutenir et m'encourager, je suis épanouie. Alors, avec ça, nous venons aussi lancer cet appel aux autres hommes de soutenir leurs femmes, de faire en sorte qu'elles aillent de l'avant. Parce que derrière les grandes femmes, il y a des grands hommes. Et derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes. Donc vraiment, c'est dans la main qu'on doit travailler. Il est venu dans le cadre de l'ONG parce qu'il est membre de l'ONG. Il est aussi venu pour me soutenir, pour essayer de voir comment ça se passe ici et quelles sont les opportunités qu'on peut avoir dans le cadre de notre clinique pour qu'on aille de l'avant, pour que l'ONG puisse aller de l'avant. Donc l'échange est très bénéfique pour nous. En tout cas, très bénéfique.
Et donc, vous allez repartir, bien sûr, en RDC. Et qu'est-ce que vous voulez ramener aux femmes et aux hommes, justement, de votre communauté?
Cette révolution de mentalité, comme je vous ai dit là. C'est-à-dire que les femmes doivent s'élever d'abord. Parce que vous savez, quand la femme est autonome dans la maison, c'est toute la famille qui va bien. Alors, elle est à côté des enfants, surtout là chez nous. Hein, les femmes, parfois... Elles ont des difficultés énormes dans le sens qu'elles ne peuvent pas s'épanouir correctement. Il y a des hommes qui ne laissent pas leurs femmes travailler. Il y a des femmes qui ne veulent pas elles-mêmes travailler parce qu'il y a des tabous, il y a des ceci et des cela, beaucoup de choses. Et c'est cette vision-là que nous amenons. Et beaucoup plus pour moi, ce sont les femmes enceintes qui m'intéressent beaucoup plus parce qu'elles ont deux vies. À surveiller et donc j'ai beaucoup de choses à ramener au pays.
Voilà, et c'est avec le docteur Mikret Ngalula Tchanda de la RDC que se referme ce magazine Escale. Escale, magazine consacré cette semaine à la 61e session de la Commission de la condition de la femme. Un magazine présenté par Jérôme Longuet, avec les contributions de Laetitia Kouassi, de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur les médias sociaux et sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.